CFM spéciale élection.
Oh là là, je ne fais pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse.
Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, on reste en politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.
Anne Blanc, vous êtes candidate à la députation, de la circonscription de Villefranche de Casseville et sous l'étiquette, doit-on parler d'étiquette d'ailleurs, de La République en Marche. Autant que vous vous présentiez un petit peu vous-même sur votre profession, votre passé, vos mandats éventuels.
Oui, bonjour. Donc, une petite présentation rapide. J'ai 50 ans, je suis infirmière de formation. J'ai 4 enfants et j'ai tiré mes motivations d'engagement à travers, premièrement, de ma première expérience professionnelle qui m'a menée au fin fond de l'Amazonie brésilienne pendant 2 ans et qui m'a apporté une expérience extrêmement riche. Et je suis revenue de ce pays avec... la volonté et la détermination de m'impliquer dans la vie publique. Alors la vie publique associative, bien sûr, dans un premier temps, parce que j'avais jamais eu la perspective ou la volonté particulière de m'investir en politique. Donc c'est vrai que compte tenu du fait que j'ai 4 enfants, j'avais vraiment l'envie de participer, de contribuer à la vie locale. Et je me suis fortement impliquée dans la vie associative du Nocellois, où on s'était installé avec mon mari, à travers un certain nombre d'associations, l'association des parents d'élèves, famille rurale, la bibliothèque municipale, et puis le club de basket dans lequel j'étais joueuse et pour lequel j'ai assuré la présidence pendant plusieurs années. Donc c'est un petit peu tout ce parcours-là qui m'a amenée en 2001 à me retrouver sur une liste aux élections municipales. Pas forcément pour être élu, parce qu'a priori nous n'avions aucune chance d'être élu, mais simplement parce que nous avions une municipalité qui n'était pas forcément très dynamique et que nous avions un certain nombre de remarques et de critiques et de propositions à faire, et que même sans avoir l'espoir d'être élus, nous voulions apporter notre contribution à la vie à la vie locale. Et nous avons constitué une liste, j'en ai pris la tête parce que personne ne voulait se positionner à ce moment-là. Et on a eu la surprise, et je dirais maintenant aujourd'hui avec du recul, la chance de se voir élu au soir du premier tour en 2001. Donc,
À
Nocelles, voilà, sur la commune de Nocelles. Donc une expérience extrêmement étonnante.
Vous êtes aussi conseillère départementale. Les maires sans étiquette, ça existe, mais les conseillers départementaux, c'est déjà moins fréquent. Donc, pour être conseillère départementale, vous êtes présentée et vous arboriez quelle étiquette à ce moment-là?
Alors, je n'ai jamais arboré d'étiquette. J'ai toujours revendiqué... ma liberté de penser, ma liberté d'expression, mais par contre au service de tous. Et je pense que c'est ce que j'ai vécu au sein de mes fonctions dans la municipalité de Nocelles et à la tête de la présidence de la communauté de communes aussi. Voilà, travailler avec tous. Et je me suis présentée aux élections cantonales aussi dans cette perspective-là et avec cette vision de travailler avec tout le monde. Et d'ailleurs, pour exemple, je fais partie d'un groupe au sein du conseil départemental qui est indépendant, un petit groupe de 5 élus, qui est positionné, on va dire, dans une position centrale et qui décide et qui se positionne en fonction de l'objectivité des sujets qui sont traités, pas forcément par rapport à un dogme ou à une idéologie.
Mais à l'Assemblée nationale, vous ferez partie de la majorité présidentielle, ce qui peut peut-être impliquer une certaine discipline et une perte de liberté.
Alors la discipline, certes, il faut de la discipline, je pense, à tous les niveaux, mais avec cette liberté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait vraiment la force aussi du mouvement La République en Marche, c'est qu'elle s'ouvre à la diversité de pensée, mais elle s'ouvre surtout à la motivation et à la détermination des élus de participer, de contribuer à la réalisation d'un objectif. Et cet objectif, il me semble extrêmement à la fois ambitieux et porteur d'espoir, c'est de reconquérir un petit peu la confiance des électeurs français et de reconquérir aussi la confiance des marchés économiques pour porter notre pays dans un dispositif plus positif que ce qu'il est aujourd'hui.
Dans vos documents de campagne, vous parlez de l'emploi. Bah oui, ça préoccupe beaucoup, hein, mais vous avez une qualification qu'on voit rarement reproduite, facteur d'intégration individuelle. J'aimerais bien que vous développiez ce que en quoi le travail est un dispositif d'intégration individuelle et puis ce que vous comptez faire pour qu'effectivement ça fonctionne.
Alors je pense que on a ces dernières décennies parlé de rentabilité, de résultats, de bénéfices et on a oublié l'humain au milieu de tout ça. On a eu des techniques de management qui ont pas forcément considéré l'humain. Aujourd'hui, l'idée c'est de remettre la personne au centre du projet économique, hein, parce que enfin une bonne entreprise, et moi j'en côtoie un certain nombre, enfin je sais pas si c'est pas péjoratif de dire une bonne entreprise, mais un chef d'entreprise qui va réussir, c'est celui qui va mettre ses salariés au cœur de son projet, parce que ce sont les salariés qui produisent. Donc, il faut redonner la reconnaissance et la place aux salariés. Et c'est en cela, moi, que je soutiens aussi le projet gouvernemental, c'est qu'il va redonner aux salariés, aux citoyens, hein, plus largement, sa place et sa reconnaissance.
Y compris dans la loi relative au Code du travail qui va être présentée devant le Conseil des ministres et si vous êtes élu, vous serez sur laquelle vous serez appelé à vous prononcer.
Tout à fait, mais je pense que cette loi, justement, je trouve que le terme qui est le plus évocateur de la politique que veut porter Emmanuel Macron, c'est libérer et protéger. Et il faut considérer que ce sont deux termes qui sont pas du tout antinomiques. On dit, oui, Emmanuel Macron, c'est un libéral. Mais libéral, si on revoit ce mot sous forme de liberté et de donner la possibilité de, et c'est bien ce qui est entendu dans le projet économique, c'est de libérer les entreprises pour qu'elles soient plus disponibles pour maintenir leur marché à l'échelon européen, mais aussi le développer à l'échelon local, et protéger les salariés aussi, en leur rappelant qu'ils ont des devoirs, mais aussi en confortant leurs droits. Donc, c'est là où je considère que l'humain doit être au cœur du projet économique et social, bien entendu.
Dans ce qui conduit au travail, dans vos documents de campagne, vous évoquez l'éducation et l'apprentissage. Tout le monde n'évoque pas l'apprentissage, tout le monde n'en a pas non plus une idée excellente.
Ouais, ça c'est je trouve que c'est un peu le drame aussi des dernières décennies, c'est qu'on a considéré que l'apprentissage c'était vraiment la filière de rejet, c'est-à-dire quand on pouvait rien faire d'autre, ben on partait en apprentissage. Alors qu'en fait, c'est là qu'on retrouve les plus beaux savoir-faire et les plus belles réussites de notre société. Si vous regardez même de gros chefs d'entreprise, ils sont souvent issus de la base, ils sont passés par des filières d'apprentissage. Moi, j'ai toujours été assez atterrée et je l'ai fait savoir dans le cadre des orientations dans les établissements scolaires, du discours qui était porté par l'éducation nationale, tous au bac. Et je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que ça a aucun sens d'amener quelqu'un à un baccalauréat, de le forcer, de le tirer sur les bancs de l'école, alors qu'à la sortie, il aura pas forcément de perspective d'activité professionnelle, et qu'il n'aura acquis aucune compétence. Alors qu'on l'aurait orienté sur une filière d'apprentissage, en revalorisant, en redorant le blason aussi,
quelle disposition prendra la députée pour favoriser l'apprentissage et à quel âge, comment?
Alors des cursus très courts, hein, en sortie de collège, hein, mais je pense que surtout ce qu'il faut, c'est la communication. Bon, on sait que, et vous êtes un outil de communication, les médias ont un rôle fondamental aussi sur l'image qu'on donne des métiers manuels, et pas que manuels d'ailleurs, puisque l'apprentissage n'est pas valable que pour des métiers manuels, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut aussi redire que nos savoir-faire manuels, que malheureusement on a eu trop tendance à perdre dans notre société française, C'est une chance pour notre pays et c'est une chance pour l'avenir économique aussi de notre pays.
Donc
il faut travailler, déjà à cette image qu'on va redonner, et puis il faut inciter aussi dans le cadre du discours qui doit être tenu au sein de l'éducation nationale à dire il y a une autre voie que celle du baccalauréat, et c'est une voie qui est tout aussi honorable parce qu'elle peut amener d'ailleurs à des études supérieures même si on part sur une base d'apprentissage.
Et vous imaginez d'aider les employeurs, d'aider les apprentis.
Donc il faut voilà, alors il faut aussi simplifier bien sûr le contexte d'accompagnement des entreprises pour accueillir des apprentis, parce que c'est vrai que c'est aussi le problème auquel sont confrontés les apprentis quand ils sont à la recherche de stage, et puis ouvrir un petit peu plus largement les possibilités d'activité d'un apprenti au sein d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui on est sur des normes de sécurité qui empêchent des fois aussi la compréhension du chef d'entreprise par rapport à un stagiaire éventuel.
Alors vous évoquez la sécurité des biens et des personnes, qui est une nécessité absolue. Je ferme les guillemets. Comment ?
Alors, il y a une des dispositions aussi à laquelle je souscris, c'est la redistribution de policiers au sein des quartiers les plus en difficulté. Donc, c'est vrai qu'on sait bien que malheureusement, dans notre société, l'urbanisation a fait qu'on a créé des ghettos dans certaines périphéries urbaines, c'est-à-dire qu'on a concentré les populations, en situation de recherche d'emploi, de chômage, de difficultés sociales.
À Nocelles, vous devez être à peu près à l'abri.
À Nocelles, ça va, mais bon, je travaille pas que pour Nocelles, si je suis élue de la circonscription, voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a certains quartiers dans lesquels la police peut pas intervenir et peut pas exercer son rôle de mise en sécurité, d'accompagnement, parce qu'il faut pas voir non plus le rôle de la police ou de la gendarmerie uniquement comme de la répression, mais aussi comme de l'accompagnement et de l'encadrement. Donc, le dispositif qui est prévu aujourd'hui par le gouvernement, c'est de recruter un nombre supplémentaire, plusieurs milliers de gendarmes en plus à l'échelle nationale pour intervenir dans les quartiers, être très présents pour de l'accompagnement et de l'encadrement et pas que pour de la répression.
On voit rarement les gendarmes dans les quartiers. Ils avaient coutume d'accompagner beaucoup dans les campagnes, c'est vrai.
Oui.
C'est dans l'urbain, c'est moins.
C'est moins fréquent. Donc c'est un petit peu aussi l'idée de ce renouveau.
Vous évoquez la laïcité. Alors, la laïcité, bon, oui, c'est. Mais vous pensez à l'école, à l'aspect dans les lieux publics.
Alors, bon, j'ai une vision un peu personnelle. Là, je me détache un petit peu du positionnement peut-être gouvernemental, mais moi, je suis un peu fatiguée qu'on n'arrête pas de parler de la laïcité. Voilà, on le met à toutes les sauces, ce mot aussi, un petit peu. Et puis, il prend quelquefois
mais
aussi des connotations.
Vous êtes le seul candidat à l'évoquer dans vos documents.
Des connotations, voilà, mais des connotations un petit peu péjoratives. Donc, je pense que la laïcité, c'est apprendre à tous vivre ensemble en se respectant. Voilà. Donc ça, c'est pas une loi qui va pouvoir y contribuer, c'est l'ensemble de la structure sociale qui va y contribuer. Ça va être au sein des activités professionnelles, dans les entreprises, dans les administrations, dans les structures. Ça va être au sein du monde associatif et au sein de la famille. Et c'est retrouver ce respect. Voilà, ce respect des différences, cette acceptation des différences que les gens vont devoir faire vivre dans le monde professionnel, dans le monde associatif.
Qui n'est pas le masque des différences.
Qui n'est pas le masque des différences, absolument pas. Parce que les différences sont une richesse, il faut au contraire s'appuyer sur ces richesses et pas les étouffer, pas les mettre en avant non plus. Il ne faut pas que ce soit des critères de référence.
Rassurez-nous, ça n'est pas non plus un chemin vers le communautarisme.
Pas du tout.
La protection environnementale. La protection environnementale, vous développerez sûrement, mais moi en même temps j'ai une préoccupation par rapport à l'Aveyron et par rapport au programme de Monsieur Macron, ce sont les éoliennes. Quel est le point de vue de l'éventuel futur député ?
Alors, je pense qu'il faut développement encore accentué des énergies renouvelables, hein, pas que de l'éolien d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'éolien, on sait qu'on,
oui, c'est ce qu'on
on
voit
cristallise,
plus.
On cristallise beaucoup de positionnements anti autour de l'éolien. Et je sais de quoi je parle puisque nous avions un projet éolien sur ma commune qui n'a pas pu aboutir justement à cause de lobbies. Un peu déplacé, je dirais. Donc, je crois qu'il faut un développement équilibré de l'éolien. C'est vrai que l'Aveyron a son quota, c'est vrai. En termes d'énergie renouvelable, on a quand même aussi fait notre quote-part. Néanmoins, je ne pense pas qu'il faille systématiquement avoir une position systématiquement négative. Je pense que chaque projet s'étudie, il faut le regarder dans son contexte et dans son environnement. S'il est tout à fait acceptable et recevable dans l'environnement, il n'y a pas de raison qu'on n'accepte pas encore quelques projets éoliens sur le département de l'Aveyron. Voilà. Mais je pense que c'est comme tout projet, il faut qu'il se considère qu'il soit repris dans son contexte et qu'il soit aussi admissible. Le souci aujourd'hui qu'on a avec l'éolien, c'est la recevabilité sociale. Il ne faut pas que ce soit un facteur qui clive et qui désolidarise les relations sociales dans un secteur donné.
Alors d'ailleurs, dans le cadre de l'environnement, vous évoquez dans le monde agricole une agriculture innovante et respectueuse de l'environnement. Et j'espère lucrative pour ceux qui la pratiquent.
Oui, alors nous étions en réunion hier avec des représentants agriculteurs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs, donc c'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder. Moi d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je suis intimement convaincue que le monde agricole a déjà pris conscience de l'intérêt qu'ils ont à travailler sur une agriculture raisonnée, que ce soit déjà en termes de coûts, hein, parce que les produits phytosanitaires ont quand même un coût conséquent. Ils ont conscience aussi, aujourd'hui ils ont pris conscience, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, de la nécessité de protéger aussi l'environnement qui est leur outil de travail, hein, la terre, les paysages, les ruisseaux aussi, ça fait partie des critères fondamentaux du développement de l'activité agricole. Donc je pense qu'il y a un travail qui va pouvoir être mené en concertation avec le monde agricole pour améliorer encore la qualité de production, même si sur notre département on est déjà sur la production de qualité, ce qui nous permettra de favoriser encore plus le développement de la vente au sein de nos cantines locales, au sein de nos cantines hospitalières, de tous les produits locaux, et puis de défendre aussi des labels de qualité à travers une utilisation raisonnée aussi des phytosanitaires et de tous les produits de traitement animalier aussi.
En matière de solidarité, vous évoquez notamment les structures d'accueil des personnes âgées. Moi, ce qui me frappe dans la pratique que j'en ai, c'est que, alors que l'inflation est nulle depuis des années, vous le savez, c'est les tarifs de ces établissements augmentent de 3 à 7% tous les ans.
Pas tous, parce qu'il y en a qui restent encore. Moi, j'en gère un, hein. Je gère un EHPAD sur la commune de Nocelles, donc je peux quand même en parler de manière certaine. Mais je suis assez d'accord avec vous sur, pas forcément sur les critères d'augmentation de tarifs, mais par contre sur la cherté de ces établissements et sur quelquefois, même s'il y a un travail considérable qui est fait par les soignants et par les personnels de ces établissements, voilà, ce côté ghetto aussi qu'on retrouve, parce qu'on est aujourd'hui sur des unités qui sont extrêmement, qui deviennent de plus en plus importantes en termes de normes et qui sont quelquefois, voilà, un petit peu mis en retrait de la société, quoi, voilà. Donc, moi, je pense que à l'avenir, il va falloir, et il y a déjà des exemples sur notre territoire aveyronnais, sur la seconde circonscription, avoir peut-être des établissements d'une autre dimension, avec des coûts moindres et un côté familial et humain et prise en charge de la personne, un petit peu une approche un petit peu différente. Je crois que c'est ce qu'on souhaite pour nos aînés et c'est ce qu'on souhaite peut-être pour nous aussi, puisqu'un jour, j'espère que ça nous arrivera aussi de vieillir et d'avoir besoin peut-être d'être accompagné dans le vieillissement.
À la lecture de vos documents de campagne, moi je suis arrivé au terme de mes curiosités. Si vous voulez rajouter quelque chose, il nous reste quelques temps pour notre entretien.
Écoutez, moi, ce que je voudrais avoir comme mission, si on me confie ce mandat de député, bon, c'est bien sûr d'abord, et c'est une évidence, c'est de garder la proximité avec le terrain. Donc, il est évident que la loi, de toute façon, va me contraindre à abandonner les mandats qui sont les miens aujourd'hui, celui de maire, de présidente d'intercommunalité. Par contre, je veux garder un pied sur les territoires et je garderai mes fonctions de conseillère municipale et de simple conseillère communautaire pour être en lien avec le terrain, et je souhaite avoir aussi une présence très forte de proximité avec l'ensemble des élus, des associations et des citoyens de cette circonscription. Et puis dire aussi en conclusion que si je soutiens aussi le projet qui est porté par le président Macron et par le gouvernement qui a été mis en place, c'est parce que pour moi, il défend vraiment la revalorisation des salaires les plus modestes, des personnes les plus modestes, en allant chercher là où il y a les moyens peut-être les plus importants. Donc je crois qu'on est vraiment sur un projet équitable, qui est juste, et en tout cas les positionnements que je prendrai moi à l'Assemblée nationale, si ma place est là, ce sera de défendre voilà cette équité, cette égalité, de réduire un petit peu les différences qui existent dans notre société et dans notre deuxième circonscription.
Merci Anne Blanc, qui donc est candidate pour La République En Marche. Merci.
Merci.
CFM spéciale élection.
Non, je ne suis pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse. Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, on reste en politique, je ne connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.